aujourd'hui dans l'émission C'est dans la boîte. Aujourd'hui, nous discuterons avec Romain, qui nous présentera les mauvaises conditions de travail chez Amazon.
Bonjour tout le monde.
Bonjour. Morgane, qui nous présentera la stratégie marketing qui a fait renaître la Formule 1.
Salut à tous.
Bonsoir. Amélie, qui nous présentera la logistique verte.
Bonjour tout le monde.
Yad, qui nous présentera les inégalités hommes-femmes au sein des entreprises, qui nous rejoindra plus tard. Et moi-même, qui vous parlera de la place des femmes dans les métiers de l'automobile. Pour commencer, quelques chiffres sur la place des femmes dans les métiers de l'automobile.
Moi, je me demandais, Raphaël, c'est quoi la place des femmes dans le métier de l'automobile?
Bah justement, on va le découvrir. Il faut savoir que plus de 100 000 femmes en France exercent un métier au sein de la branche automobile, soit un emploi sur cinq. C'est à travers les secteurs que nous allons voir les plus grandes disparités. L'égalité des genres dans l'automobile. D'après une étude réalisée en 2023 par la NFA, les écoles de conduite où les hommes occupent à 51,6% ces postes, contre 48,4% pour les femmes. Les commerces de détail de carburant, où l'on retrouve les mêmes pourcentages que pour les écoles de conduite, et la location de véhicules, occupés à 60% par des hommes, contre 40% par des femmes. Pour ce qui est des métiers techniques, nous pouvons observer que les métiers de mécanicien et carrossier sont occupés à moins de 1% par les femmes. Néanmoins, d'après l'étude de la NFA, on observe que sur l'année scolaire 2020-2021, la part des femmes suivant une formation dans l'automobile est en progression. En effet, elles représentent 3,8% des effectifs en apprentissage. Par rapport à 2016-2017, cela représente une progression de plus de 60%, passant de 1522 à 2440. Toutefois, un domaine où les femmes sont largement représentées dans l'automobile est celui de l'administratif. 80% des postes de secrétaire sont occupés par la gente féminine. La place des femmes dans la vente automobile. Savez-vous pourquoi les constructeurs automobiles s'intéressent de plus en plus au profil féminin pour leurs équipes commerciales?
Alors moi, personnellement, je trouve que les femmes, elles sont plus à l'écoute.
Pour moi, les femmes, elles sont beaucoup plus perfectionnistes. Et donc, ça peut être un avantage dans le secteur de l'automobile.
Oui, c'est ça. Tout d'abord, il faut dire que les femmes ont une réputation d'être plus sensibles. Et donc, comme tu as pu le dire, Romain, à l'écoute de leurs clients. Amélie qui nous a dit perfectionniste et ayant le souci du détail. Elles arrivent à convaincre le client. Pour le moment, encore peu de femmes sont vendeuses en concession. Toutefois, celles qui y sont bien évidemment les plus passionnées et motivées, ce qui peut expliquer leurs excellentes performances. C'est pourquoi, d'ici quelques années, le nombre de vendeuses devrait encore augmenter. Pour résumer, comme vous avez pu le remarquer, les inégalités sont encore nombreuses, mais elles tendent à se rétrécir. Finalement, le mieux n'est-il pas de dire qu'en 2024, femmes et hommes devraient pouvoir exercer les métiers qui les passionnent ?
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec tout. À notre époque, on a besoin de plus de femmes dans le milieu automobile. Parce que bon, on vit dans un pays où maintenant, on doit être tous égaux.
Bah, je suis assez d'accord avec toi, Morgane. Franchement.
Bah, et pour ma part, étant moi-même une femme, ça me paraît important qu'il y ait de plus en plus de femmes qui nous représentent dans le monde du sport automobile. Parce que bah, moi-même, je suis une fan de sport automobile et. Ça me paraît super important que, bah voilà, y a des femmes puisqu'on est tout aussi intelligentes que des hommes.
Nous pouvons donc passer maintenant au sujet de Morgane.
Bon, je pense que vous avez reconnu cette musique d'intro. Hein,
ouais.
Je vais vous parler d'un certain sport, la Formule 1 bien sûr. Donc je vais vous parler surtout de quelle stratégie marketing a réussi à redynamiser l'image de la Formule 1. Donc, on va voir en plusieurs exemples et aussi comment tout a commencé. Donc, premièrement, Formule 1, je pense que vous le savez sûrement, c'est un sport automobile où 20 pilotes se battent tout au long d'une saison avec 10 équipes à part entière. Depuis quelques années, la Formule 1 reconnaît un réel essor de son image et de popularité. Car, avant 2017, la Formule 1 appartenait au directeur de la Formule 1, donc Bernie Ecclestone, qui du coup s'occupait de toutes les stratégies marketing de la Formule 1 et aussi avait pris comme décision de ne pas médiatiser la Formule 1 sur les réseaux sociaux ou les moyens de communication modernes. Donc en 2017, la Formule 1 a été vendue aux médias de masse Liberty Media, qui est une société qui est en rapport avec les médias, donc fait de la médiatisation en masse. Donc elle a décidé de racheter la F1 et de faire en plusieurs stratégies pour redonner une nouvelle image de la Formule 1, donc en faisant plusieurs choses simples. Premièrement, par exemple, avec les jeux vidéo de Formule 1, plus la vente de merch, donc tous les vêtements, accessoires des écuries ou des pilotes, et aussi plus de jeunes pilotes pour que les gens de notre génération peuvent plus se reconnaître avec eux. Mais aussi, ils organisent des grands prix, surtout aux États-Unis en ce moment, par exemple le Grand Prix de Las Vegas, où en fait, il y a plus de show que de course, et la course reste en soi décevante, mais tout ce qu'il y a autour reste un réel événement, et c'est surtout pour rajouter du dynamisme à la Formule 1, donc avec des concerts ou plein d'événements qui entourent le Grand Prix. Je ne sais pas si certains l'ont regardé, le Grand Prix, mais...
Ouais, Las Vegas.
Ouais.
Ouais, c'est carrément beaucoup plus de show que de course en soi.
Ouais, voilà, donc ça reste assez décevant. C'est comme le Grand Prix Miami, il y a plus de show que de course. Mais bon, après, ça a quand même fonctionné, vu que tout le Grand Prix, aucune place était disponible et les prix des places vendaient à des valeurs faramineuses. Et aussi, on peut voir qu'ils se sont associés avec la société de streaming Netflix. Donc Netflix, avec la Formule 1, ont créé une série qui s'appelle Drive to Survive, qui résume en toute une saison, une saison de Formule 1. Et en fait, sur cette série, on a plus le point de vue des pilotes et des équipes que la course en réel. Sauf que le problème de cette série, c'est qu'il y a beaucoup trop de storytelling qu'il y en a en Formule 1, qu'en fait, il y a beaucoup d'inventions de rivalités entre les pilotes, alors que beaucoup de pilotes ont démenti ces rivalités. Mais après, d'un point de vue économique, la Formule 1, grâce à cette série, a gagné des millions et des milliards d'euros. Et en plus, ça a attiré beaucoup plus de fans de F1 parce que le storytelling reste la forme de marketing qui intéresse le plus les gens. Après aussi, on a pu voir que sur les réseaux sociaux, la croissance de la Formule 1 depuis le rachat a augmenté de 32,9% en un an, ce qui représente 24,9 millions de followers entre 2018 et 2019. Ce qui reste un chiffre assez énorme par rapport, par exemple, au foot, que la même année, on a connu un essor de 12,8%. Donc, pratiquement le double, la Formule 1 a fait. Donc, ça reste exceptionnel pour un sport qui avait soi-disant disparu. Mais de plus, on peut voir que grâce à cette idée-là de série sur Netflix, beaucoup de sports s'y en inspirent, comme le Tour de France, la NBA... ou même le football en général, ou aussi le MotoGP, où ils font des séries où ils racontent les histoires soit de joueurs ou alors d'une saison, parce qu'ils ont vu à quel point, grâce à ça, la Formule 1 a été sauvée financièrement et de ce que c'est devenu la Formule 1. Donc c'est pour ça que tout le monde s'y inspire, et là, je pense qu'on peut dire que le storytelling reste la meilleure technique marketing pour attirer les gens.
Moi, j'avais une question pour toi, Morgane. Qu'est-ce que tu en penses de Netflix et du storytelling ? Est-ce que pour toi, c'est une bonne idée pour ramener d'autres profils de gens qui vont regarder la Formule 1 ? Ou pour toi, vraiment, c'est raconter... Parce qu'en fait, dans Drive to Survive, c'est vraiment l'aspect en dehors de la piste. Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose ou pas d'inventer des rivalités, entre guillemets, pour ramener des gens ?
En soi, je trouve l'idée... Elle est mal faite, en soi, l'idée, parce qu'inventer des rivalités, c'est pas la meilleure chose à faire. Mais en soi, au moins, ça peut attirer des nouveaux fans, du coup, rapporter de l'argent à la F1, même si, après tout ce qu'on a vu depuis qu'ils gagnent beaucoup d'argent, ils ont des idées spéciales, on va dire, en soi. Mais personnellement, je préconiserais plus de regarder sur Canal+, les rétro F1, qui sont disponibles gratuitement sur YouTube, qui, grâce à ça, nous donnent les vraies histoires qui sont passées pendant la saison. Et là, il n'y a aucune invention, tout est du réel. Mais bon, la série Netflix... Je déconseille fortement si on veut vraiment, vraiment s'intéresser à la Formule 1.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi.
Merci Morgane pour ton intervention. On voit que c'est un sujet qui te passionne, ça fait plaisir d'entendre des gens comme toi.
Merci. Merci Morgane, très intéressant ce sujet.
Y a pas de quoi.
On pourra maintenant passer au sujet d'Amélie, si vous le voulez bien.
Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler de logistique verte. Je suppose qu'autour de cette table, il n'y a pas grand monde qui voit ce que c'est, et parmi les auditeurs, c'est la même chose.
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Franchement, pas du tout.
Donc, pour vous en parler, j'ai choisi de vous parler aussi de la Formule 1. Prendre l'exemple de la Formule 1 parce que c'est quelque chose qui me passionne et que d'ici 2030, ils veulent devenir totalement neutres en émissions de carbone. Ils ont commencé par vraiment essayer de réduire les émissions en dehors de la piste. Et donc, ça commence par la chaîne logistique. Et donc, pour donner une définition simple de ce que c'est la logistique verte, je pourrais dire que ce sont des démarches et des solutions visant à réduire l'impact environnemental d'un produit ou d'un processus. Et il faut bien comprendre que la logistique, ça englobe vraiment tout le cycle de vie des marchandises, donc de la production à la livraison, en passant par la conception et le stockage. Donc, par exemple, en choisissant un fournisseur plus proche de chez vous, vous réduisez à la fois la distance d'importation et donc les coûts, mais aussi l'empreinte carbone. À noter que la logistique verte permet aussi d'améliorer l'image de marque.
Et moi, je me demandais, Amélie, est-ce que c'est facile ou pas de faire de la logistique verte ?
Alors, je dirais pas que c'est facile, mais je dirais pas que c'est non plus infaisable, dans le sens où un grand nombre d'entreprises le font déjà. Mais il y a quand même des obstacles. Par exemple, le manque d'engagement et de soutien de la part de l'État, ou encore certaines entreprises qui résistent à l'adoption des nouvelles technologies et donc qui n'ont pas la capacité d'évoluer vers une logistique plus durable. Mais on a aussi des contraintes financières qui peuvent être un obstacle à la logistique verte.
Et pour toi, Amélie, la logistique verte, elle peut prendre quelle forme ?
Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, la logistique, ça prend beaucoup de formes différentes, puisque le processus, c'est vraiment un processus qui va de la livraison à la conception. Et donc, les formes de logistique verte, ça va aussi varier. Donc, par exemple, pour le transport de marchandises, on va privilégier le transport ferroviaire ou le transport intermodal, qui est la façon d'optimiser sur des grandes distances. Et à l'inverse, par exemple, sur le dernier kilomètre, pardon, qui est notamment le maillon de logistique qui pollue le plus, on va privilégier des plateformes qui sont implantées à proximité des métropoles pour ensuite livrer, donc avec des vélos ou des véhicules électriques. Mais ça peut également être au niveau de l'emballage, le rendre moins encombrant et pour optimiser le taux de remplissage des véhicules. Mais ça peut aussi être une façon de stocker ces produits pour consommer le moins d'énergie possible. Et donc pour terminer, et pour en revenir à mon exemple de la Formule 1, en collaboration avec DHL, ils ont mis en place pour les courses européennes une flotte de 18 camions alimentés en biocarburant. Et ça a permis de réduire de 60% les taux d'émission de chaque camion pour un même niveau de performance en termes de capacité de charge et de distance de déplacement.
Mais par exemple, parce que tu disais que c'était plus au niveau de l'Europe qui faisait ça ?
Oui.
Mais par exemple, on peut voir qu'il y a beaucoup moins de grands prix en Europe. Premièrement, la France elle a été retirée, l'Allemagne, peut-être bientôt d'autres pays. Mais on voit que ça se concentre plus vers les pays d'Arabie Saoudite ou alors aux États-Unis. Mais eux, est-ce qu'ils prennent vraiment des mesures pour faire ça ?
Bah, je pense que ce que DHL a fait avec la Formule 1, c'est un premier pas vers 2030, qui pour moi est... 2030, c'est trop juste pour être totalement neutre en carbone. Mais c'est un premier pas pour lancer peut-être autre chose et essayer sur d'autres courses qu'en Europe, parce qu'Europe, il n'y a plus vraiment beaucoup de courses. Ça se concentre vraiment en Amérique et en Arabie Saoudite. Donc, c'est un premier pas pour moi sur quelque chose de beaucoup plus gros qui va permettre de vraiment réduire les taux d'émission de carbone.
Mais tu penses qu'il n'y a pas de risque qu'on perd, entre guillemets, en... Je ne sais pas comment expliquer, mais par exemple, la Formule 1 serait moins intéressante avec toutes ces choses en rapport avec... Enfin, pour l'écologie, entre guillemets.
Bah, pour moi, non, puisque... En fait, je pense que ce qui est essentiel, c'est de garder sur la piste la même chose qu'on a actuellement, mais derrière, vraiment sur tout ce qui est logistique et autres, essayer de vraiment... Je pense que c'est dans ces secteurs-là qu'on peut réduire le plus, parce que la Formule 1, bah, par définition, c'est un sport qui pollue énormément. Et... Je pense que si on vient à vraiment faire que de la formule électrique, par exemple, ce serait vraiment pas intéressant et ce serait plus du sport automobile pour moi.
D'accord, merci.
Merci Amélie pour ton sujet. Si vous le voulez bien, maintenant on peut passer au sujet de Romain.
Alors bonjour à tous, mon fait d'actualité va porter sur les mauvaises conditions de travail chez Amazon. En effet, Amazon est une grande firme américaine. Cette entreprise fait partie des géants du web sous l'acronyme GAFAM. D'ailleurs, connaissez-vous les 5 grandes entreprises des GAFAM ?
Je crois qu'il y a Google, Microsoft, Apple, Amazon et Facebook.
Génial, Amélie. Alors, l'entreprise a été fondée par le milliardaire Jeff Bezos, l'un des hommes les plus riches au monde. Mais malgré tout cela, une grande partie des employés du secteur logistique d'Amazon se plaignent des très mauvaises conditions de travail. C'est pourquoi, malgré cette riche entreprise, les conditions sont mauvaises.
Et est-ce que tu aurais quelques chiffres pour un peu expliquer les conditions de travail ?
Ouais, pour l'inquiétante santé des salariés. Alors oui, en effet, 256 salariés ont été entendus travaillant dans l'entrepôt logistique de Montélimar. Parmi les résultats, 44% affirment avoir consulté un médecin pour des problèmes de santé liés à leur emploi. Le nombre d'absences au travail par maladie ou accident au travail se situe nettement au-dessus de la moyenne française, 4,5% contre 9,8% chez Amazon. Le nombre d'accidents de travail avec arrêt a plus que doublé en 2022, soit 1132 incidents contre 482 l'année précédente. L'étude porte sur les 8 entrepôts et le siège.
Est-ce que vous avez des chiffres concernant le stress ?
Oui, en effet, 74% des employés ressentent des douleurs physiques qu'ils associent à leur job. 70% évoquent le stress au travail. Et 71% des cadres parlent d'insomnie. Donc, pensez-vous qu'Amazon mérite d'être aussi reconnu en tant que géant du web ?
Ben, moi, je pensais que oui, mais vu les conditions de travail, je pense que c'est important de le mettre en lumière.
Moi, je pense pas, puisque avec tout ce que tu viens de nous dire là maintenant, moi, je pensais que c'était plutôt une ambiance sympathique, mais finalement...
Bah, en effet, certes, mais malgré cela, Amazon a encore énormément d'employés et une étouffée de problèmes des baisses de rémunération salariale et de destruction d'emplois. Amazon a même déclaré avoir investi 25 millions d'euros en 2022 en France sur la sécurité et le bien-être de ses salariés sur le site logistique. Le travail des employés d'Amazon sont de plus en plus dégradants et c'est sûrement la raison pour laquelle plus aucun employé ne veut aller travailler. Des salariés sont surveillés par des robots pour surveiller leur efficacité au travail.
C'est vrai, j'en ai entendu parler, je sais pas pour vous, mais...
Non.
Moi j'en avais également entendu parler aussi.
Alors oui, en effet, certains postes ont été remplacés par des robots. L'entreprise Amazon teste des robots humanoïdes dans ses entrepôts qui a pour but d'accompagner les employés dans leur travail et de libérer certains emplois. Pour résumer, l'entreprise a encore de nombreux problèmes concernant ses conditions de travail et la façon de gérer ses salariés. Pour Jeff Bezos, le mieux n'est-il pas d'améliorer les conditions de travail de ses salariés en augmentant les salaires ou en réduisant la pression ? Les salariés ne devraient pas subir de telles conditions de travail.
Et moi j'aurais une question pour toi Romain, c'est quoi ton avis personnel sur le sujet ?
Bah personnellement je trouve qu'Amazon mérite sa reconnaissance car ils ont beaucoup investi mais je trouve qu'ils devraient améliorer les conditions de travail de leurs salariés.
Et okay. Par rapport aux robots, est-ce que tu penses que c'est une bonne solution justement d'aller vers beaucoup plus de robots ou juste il faut garder ce truc d'avoir des salariés et travailler un peu avec des vraies personnes ?
Bah je trouve qu'il faut un peu des deux, il faut mélanger le côté robotique et le côté humain pour faire une meilleure efficacité au travail.
Merci Romain pour ton sujet. On peut dorénavant passer au sujet de Yad.
Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des inégalités entre hommes et femmes au sein des entreprises. Alors tout d'abord, les inégalités entre hommes et femmes au sein des entreprises sont un problème qui persiste dans le monde. De nombreuses grandes entreprises, bien que des progrès ont été réalisés au fil des ans, la sous-représentation des femmes dans des postes de direction reste flagrante. Les stéréotypes de genre persistent, limitant les opportunités de carrière pour les femmes et les plaçant souvent à des rôles moins visibles ou moins bien rémunérés. Qu'est-ce que tu en penses, Amélie ?
Bah, moi, je pense qu'il faudrait voir beaucoup plus de femmes à des postes à haute responsabilité, cadre ou etc. Parce qu'on est tout aussi capable d'avoir ces responsabilités que des hommes.
Je suis complètement d'accord. Et toi, Romain ?
Moi, je suis totalement d'accord avec Amélie.
Ok. À titre d'exemple, les statistiques révèlent encore un écart salarial important entre hommes et femmes. Même pour des postes similaires, les femmes ont souvent du mal à accéder à des postes de direction. Cela est observable dans des entreprises de toute taille où la représentation féminine diminue à mesure que l'on graphie les échelons hiérarchiques. Les petites entreprises ne sont pas écartées de ce défi. Parfois, en raison de structures organisationnelles moins formelles, les inégalités peuvent être moins visibles, mais elles demeurent néanmoins préoccupantes. Les stéréotypes de genre peuvent également influencer les décisions d'embauche et les opportunités d'avancement, créant ainsi des obstacles subtils mais persistants pour les femmes. Des initiatives visant à promouvoir la diversité et l'égalité des sexes sont de plus en plus nombreuses, mais la route vers un changement significatif reste longue. Il est crucial que les entreprises mettent en œuvre des politiques inclusives, revoient leur processus de recrutement pour éliminer les biais de genre et encouragent activement la diversité à tous les niveaux de l'organisation. Enfin, pour conclure, les inégalités entre hommes et femmes en entreprise sont un défi majeur, que ce soit au sein de grandes entreprises ou dans des structures plus modestes. Le combat pour l'égalité des sexes nécessite de nombreuses actions, une sensibilisation continue et des efforts visant à transformer les mentalités au sein des organisations.
Merci Yad pour ta participation et je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve sur le site du Studio Gecko pour une prochaine émission. Merci à vous d'avoir participé et à plus tard.
Au revoir.
Salut. Au revoir.